Il est impossible ici de mettre en place une clôture sur les 200 hectares soi-disant achetés par Pierre et Vacances et de surveiller cette clôture. C'est impossible. Vous avez 7000 mètres passant par Mont et par Vaud dans des terrains qui sont difficiles, qui sont non mécanisables. Il est absolument impossible de créer cette clôture en moins d'un an. Et pendant un an, ça fait 365 nuits où nous venons cisailler les trucs. Et c'est impossible de tenir le terrain. On y mettrait 7 ou 8 compagnies de gendarmes mobiles en permanence. Ça coûterait une fortune et l'État n'a pas à faire ça. C'est à l'opérateur privé de le faire. Quant à lui, s'il veut tenir cette zone-là de façon sécuritaire avec des barbelés et tous les machins, le jour où il fait ça, c'est pas 300 000 militants qu'il a, c'est 3000. Donc il n'y a aucune raison que ça marche. Ici, on est sur un terrain privé, acheté par un privé pour faire une opération spéculative avec l'argent public, et on va pas ici créer une citadelle. Ça ne marchera jamais. C'est l'évidence même pour n'importe quel militaire qu'on ne peut pas tenir.
Sainte-Parks, ni ici, ni ailleurs. Une émission de Radio Zinzine. Première partie, une balade à Roibon. Nous sommes une quarantaine à faire une balade ce dimanche 4 décembre 2016 sur le ZAD à Roibon, à découvrir cette forêt des Chambarans dans l'Isère, où l'entreprise Pierre et Vacances voudrait installer un nouveau Sainte-Parks. Un méga projet touristique délirant avec bulles tropicales et 1000 bungalows ou cottages. Des opposants occupent la zone depuis novembre 2014. Ils nous avaient invités à une rencontre à La Marquise, maison forestière occupée, pour célébrer le troisième hiver de présence sur les lieux. C'était aussi l'occasion de renouer les liens avec d'autres luttes en forêt ou pour des forêts, comme celle à Bure dans la Meuse, dans le Morvan en Bourgogne, ou celle contre la méga-centrale à biomasse à Gardanne. Il y avait également les opposants à deux autres projets de Sainte-Parks, à Poligny dans le Jura et à Rousset en Bourgogne. Les zadistes avaient invité deux membres actifs de l'association pour les Chambarans sans Sainte-Parks à nous accompagner lors de cette balade. Jean-Jacques Fier et Yves Checuti, naturaliste et grand connaisseur de la zone, qui vient de dire à quel point il est convaincu que Pierre et Vacances ne pourra jamais réaliser ce projet. Partons donc en balade.
C'est les fennes, c'est un fruit, le fruit du hêtre, qui est là. Et ça, dedans, il y a 30% de matière grasse. Du coup, on peut les presser et faire de l'huile avec. Et nous, on les mange, on les fait griller à la poêle. Enfin, c'est juste que ça prend vachement de temps à écorcer, mais c'est vraiment bon.
Et c'est utilisé à l'époque ou?
La fenne. Oui, ça a été panifié à l'époque où on n'avait rien d'autre. La châtaigne est encore ramassée par des gens qui n'ont pas énormément de moyens. Je connais des personnes qui viennent chercher leur châtaigne chaque année. Et il y a encore 15 ou 20 ans, c'était une des nourritures locales. Maintenant, ça a disparu, quoi. Ces régions ont été pauvres il y a encore un siècle. Ici, on n'était pas dans les endroits les plus productifs. Et les gens avaient trouvé dans la forêt et alentour des moyens de survie qui sont maintenant abandonnés, quoi. Ce qui explique pourquoi parfois il y a certains antagonismes entre les gens qui se disent d'ici et puis ceux qu'ils considèrent comme venant d'ailleurs, donc les gens de la ZAD. Cet antagonisme est lié à ces modes de production que vous avez réhabilités et qui pour eux sont synonyme d'une certaine misère, celle de leurs parents ou grands-parents, quoi. Donc le contraste est fort entre les zadistes qui assument une certaine misère et puis les gens d'ici, qui se disent d'ici, qui la refusent et qui comprennent pas qu'on puisse valoriser des modes de vie qui sont pour eux détestables, quoi.
Cette zone, quand on balade dans la zone ici, pas la zone précise ici, mais la région, on a l'impression que c'est beaucoup de... Ben surtout des bovins, quoi, c'est l'élevage, mais on voit très peu de culture, ou même pas beaucoup, peut-être un peu de jardin, mais peu. Est-ce que c'était plus mixte avant?
L'opération précédente, c'est celle qui a abandonné l'élevage. L'élevage n'était pas l'élevage des bovins, c'est celui de la chèvre. Et là, actuellement, comme il y a une déprise des pratiques agricoles, la plupart des terres sont converties soit dans la culture des noyers, quand c'est favorable, quand c'est mécanisé, soit dans l'élevage bovin, parce que là, il y a très peu d'entretien à faire, il y a les parcs à faire, et puis Et tout ce qui n'est pas mécanisable facilement, où les parcs sont pas faits, c'est à laisser à l'abandon. Donc il y a énormément de zones qui étaient autrefois des zones de pâture, il y a encore une trentaine ou une quarantaine d'années, qui sont maintenant des friches. La forêt, c'est complètement différent, la dynamique est différente, c'est une forêt qui est là depuis plusieurs siècles. Elle est exploitée différemment de ce qu'elle était autrefois. Autrefois, elle était entretenue par tous les petits propriétaires privés. Maintenant, elle est entretenue uniquement par des exploitants professionnels qui achètent des lots, qui coupent, qui s'en vont, qui reprennent un autre lot plus loin. Voilà. Mais la polyculture traditionnelle d'il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, elle a complètement disparu. C'est fini. Là où c'est mécanisable, on va trouver des noyers ou quelques céréales, comme le maïs. Et puis, là où ça l'est moins, où les terres sont différentes, on va trouver de la pâture et on va trouver des vaches, mais pas des vaches laitières, simplement des vaches allaitantes, des jeunes veaux, et puis hop, ça part. Donc c'est une agriculture qui demande des capitaux, mais très peu de moyens humains. Les chemins que nous sommes en train d'arpenter sont des liaisons de ferme à ferme, de hameau à hameau et de village à village. Et le long de ces chemins, qui étaient autrefois beaucoup plus fréquentés que maintenant, il y a des plantations de châtaigniers. Je pense qu'il y a une trente ou quarantaine d'années, c'est l'époque où les châtaigniers de Chambaran ont été abandonnés.
Mais ici, c'est vrai qu'on voit des très beaux qui sont pas morts.
Voilà, ces trois-là, ils sont absolument magnifiques.
Ils donnent beaucoup et des belles châtaignes.
En tout cas, les voilà, ces arbres absolument magnifiques, avec beaucoup de petites faunes. Je veux dire, par là, il y a aussi bien des petits mammifères que des oiseaux. Ils nichent. Et des abeilles.
Ouais, des abeilles dans des châtaigniers derrière, qui s'est installé dans le creux.
Parce que vous voyez bien tous ces creux qui sont dedans. Donc c'est favorable à toute la petite faune. Ça peut être aussi bien une fouine qui va, une martre. Ça peut être des chauves-souris. Il y a une quinzaine d'espèces de chauves-souris. Puis ça peut être tous les petits oiseaux nicheurs de la forêt qui sont là-dedans. Ils viennent exploiter aussi bien le creux comme la surface pour se reproduire, mais aussi tous les insectes. Et donc ces creux sont des sources de nourriture. Vous voyez là-haut les loges des pics? Vous voyez ces petits trous ronds, là? Et si on écoute bien, il y a une petite mésange.
On y va.
Ça, ce sont d'anciennes pâtures. Il y avait cet élevage familial, hein, où les gens venaient garder vaches. Donc, c'est les enfants qui gardaient. Hein. À partir de 8-10 ans, on envoyait les enfants dans les prés, en champ, comme on disait autrefois. Les petits gardaient les chèvres, les plus âgés gardaient les vaches. Et donc toutes ces zones de pâture appartiennent à l'une des familles qui est là derrière. Elles sont très très bien situées, c'est un endroit extrêmement intéressant pour l'observation de la faune, pour nous qui ne sommes pas des exploitants mais des observateurs. Ça, c'est les endroits les plus merveilleux qui soient. Vous avez aussi bien les mammifères qui viennent se nourrir dans l'herbe que les oiseaux qui en profitent. Donc ici, si vous passiez le soir, vous pourriez voir des bécasses. En matinée, vous pouvez voir d'autres oiseaux, comme les busards qui chassent ici. Vous pouvez voir aussi des échassiers, donc les différents hérons. Et puis pour les mammifères, si vous avez un peu de chance, vous voyez aussi bien du renard, du chevreuil, des blaireaux, une fouine qui passe de temps en temps. C'est vraiment merveilleux parce qu'il y a le mélange entre une zone très ouverte et puis la forêt qui est juste derrière, sans qu'il y ait de clôture qui vienne empêcher les allers-retours. Donc c'est cette particularité, donc des zones un petit peu comme une oasis au milieu d'une grande zone boisée, qui font que les cigognes noires étaient inféodées dans cette forêt. Parce qu'il y a toutes ces zones où elles peuvent se nourrir. Toutes les forêts ne permettent pas d'accueillir des cigognes noires, mais il se trouve qu'ici, il y en avait une. Enfin, il y avait un couple nicheur dans cette forêt. C'est un oiseau très rare et il était observé ici, voilà, sur cette zone-là, qui est là-haut.
Oui, bah, entre la marquise, la maison de l'ONF qui est occupée, et la zone de Pierre et Vacances, il y a quelques kilomètres. Et ici, le champ de souris, c'était une base intermédiaire entre la maison et les choses qui se passaient sur le site de Pierre et Vacances. Du coup, il y avait des arbres, des cabanes dans les arbres qui servaient de relais radio et une base au sol là qui permettait de ravitailler les gens qui allaient sur la zone pour aller bloquer les machines.
Donc maintenant, il n'y a plus personne parce que finalement, il y a une espèce de pause ou enfin moratoire par rapport au projet. Et donc, en fait, ce n'est plus nécessaire d'avoir des gens ici, c'est ça?
Oui, c'est ça. Puis à partir du moment où on a commencé à sortir les machines, les services de sécurité et qu'on a commencé à construire les cabanes sur zone, bah, on a lâché ici, on a commencé à plus habiter sur la zone là-bas. Okay.
Bon, je pense que vous connaissez tous cette zone. Vous pourriez être déjà, cette petite combe pourriez être déjà passée, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, on est vraiment dans un des endroits qui explique le mieux pourquoi il y a ici une, à la fois une forêt et en même temps une zone humide. Alors que quand on arrive de l'extérieur, on s'imagine qu'une zone humide, bah, c'est de l'eau libre avec des lèches autour et puis des rives, etc., etc. Non, elle est là, devant nous, la zone humide. En fait, tout, sous cette forêt, il y a énormément d'endroits où l'eau s'accumule et reste en permanence. Donc vous verrez un peu plus loin, ces petites tourbières, il y en a une ou deux là. Et puis en contrebas, il y en a encore deux ou trois. Et puis l'eau qui circule, qui ruisselle et qui forme ces petits ruisseaux. Donc celui-ci, c'est un des affluents du Grand Julin. Et ce sont ces fameux milieux humides qui sont la particularité de Chambaran, à savoir des endroits où on a trouvé des écrevisses et d'autres espèces assez rares, comme un chabot, une espèce de petit poisson qui se tient sur la roche tapis, mais aussi des truites. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Et les fameux batraciens qui font l'objet de toutes nos recherches, donc les différents crapauds, grenouilles, salamandres et autres tritons. Donc on les voit bien. Ces petits ruisseaux sont alimentés en permanence. Toute l'année, ça coule. Même en juillet, ça reste frais. En août, il y a encore de l'eau. Et dans celui-là en particulier, le milieu était absolument encore intact il y a quelques années. Il n'avait pas été perturbé. Donc on y trouve les fameuses écrevisses que l'on cherche. Quand on parle d'écrevisses, on parle de l'espèce originelle, celle d'Europe, et non pas les écrevisses invasives qui ont été importées d'Amérique il y a quelques dizaines d'années et qui ont supplanté dans d'autres rivières la faune d'origine. Idem pour la truite fario. On trouve ici la truite d'origine, celle qui n'a pas été polluée par les différents croisements qui ont été faits dans les piscicultures afin de réimplanter là où elle avait disparu. Donc ici, on a les souches d'origine de la fario. Et si un jour il devait y avoir une catastrophe dans les pisciculture, à savoir une maladie qui viendrait à mettre à mal l'élevage de la fario, parce que, eh bien, on pourrait retrouver dans nos rivières de Chambaran des spécimens qui, eux, n'ont pas été contaminés au point de vue de l'élevage industriel, quoi. Et il n'y a pas eu la nécessité de faire des réensemencements, de remettre, d'empoisonner, alors que plus bas en aval, où c'est exploité de façon beaucoup plus intensive, à quelques kilomètres en bas, c'est la surperche ou les pollutions qui ont fait qu'à un moment ou l'autre, on a réimplanté du poisson qui venait des closeries, des fédérations de pêche. Là, le poisson est resté où les écrevisses sont restées ce qu'ils sont, assez peu exploité et surtout à l'abri de toute perturbation, soit par des pollutions d'origine agricole, soit par des pollutions d'origine industrielle ou citadine. Et le poisson ou les crustacés sont d'origine. C'est tout. On peut considérer ça dans la préservation de petits îlots de nature qui sont restés à l'écart de l'exploitation. Ces petits combés, il y en a partout. C'est des centaines et des centaines d'exemplaires, et dans chacun d'eux, il y a cette petite faune, ou plutôt ces milieux très particuliers. Et c'est ça qui fait la particularité de cette forêt. C'est pour ça que c'est une zone humide. C'est à la fois zone humide et couvert forestier. Au départ, l'aménageur a sûrement pas bien compris qu'en achetant ou en voulant acheter cette forêt, il achetait également des zones humides. C'est-à-dire qu'il a acheté le point de départ de plusieurs rivières, l'endroit où on est sur la tête de bassin de plusieurs rivières. Et ne l'ayant pas compris, il s'est trouvé face à ces difficultés qui font que maintenant il est en procès pour une atteinte à la loi sur l'eau d'une part, deuxième procès pour des atteintes aux espèces protégées, et puis ensuite, troisième procès pour l'assainissement, c'est-à-dire qu'en voulant faire bénéficier son Center Park d'un système d'amener d'eau qui vient d'en bas, de la plaine qui est à 20 km d'ici, de retraitement de l'autre côté, eh bien il doit créer tout un système d'amener et de transport de ces eaux usées vers l'aval. Ce dossier n'ayant pas été administrativement fait dans les règles, il se trouve maintenant en butte à des difficultés judiciaires, et on espère que nous allons gagner et que cet aménageur sera bouté loin de nous. Sur trois endroits, il a sous-estimé le problème. La biodiversité, c'est pour ça qu'il est attaqué au titre des espèces protégées. Le problème très particulier de cette zone humide sous la forêt, donc il est attaqué au titre de la loi sur l'eau et des compensations qu'il devrait apporter, qu'il n'a pas apporté. Et le troisième problème, on fait transiter de l'eau propre qu'on pollue ici et qu'on va nettoyer en bas. Et là encore, sur ce dossier-là, il y a des lacunes, quoi. Ces procès vont être jugés courant janvier 2017. Décembre. D'accord. Donc Jean-Jacques nous dit que c'est bientôt, là, d'ici une dizaine de jours. On les attend depuis plusieurs années et on espère évidemment que les juges auront le bon sens de juger dans le même sens qu'à Sivens, à savoir les procédures n'ont pas été respectées et tout ce qui a été fait était illégal, quoi. En plus d'être illégitime. Alors ce petit pont, il a été fait par les gens de la ZAD. Il y a encore 2 ans, on passait là, sur les galets. Et maintenant, grâce à eux, on a un magnifique pont japonais, absolument extraordinaire. Quoi, il est superbe.
C'est moderne.
Ah, c'est beau.
Oui. Vous avez fait ça en combien de temps?
Il y a longtemps, mais ça a duré. On a étalé parce qu'on habitait déjà avant de l'avoir fini. Mais là, c'était tout un village. Il y avait les camions, des gens qui, il y avait une yourte ici, des gens qui habitaient là. Il y avait la banque des semences dans la yourte et les couchages. Et du coup, on avait un bassin là-bas pour l'eau. Et c'était, il y avait des cultures potagers derrière et un peu plus loin là-bas. Et du coup, ça nous a duré peut-être 3 mois de finir de A à Z, 2-3 mois.
Et là, elle va être reprise ou... Parce qu'il y a des fuites là-bas.
Les gens, quand ils viennent s'y poser un peu, on leur réindique qu'il faut rajouter du genêt là où il y a des fuites. Et voilà, ça, apparemment, ça ne fuit pas trop. Les gens qui dorment là, quand ils redorment là, ça se passe bien.
C'est surtout pour été, quoi.
C'est surtout les mois où il ne fait pas trop froid, mais...
Pour ceux qui sont encore jamais venus dans la forêt, il y a 2 ans, ici, il y avait exactement le même faciès que là à côté. Et puis, très rapidement, en une semaine ou deux, ils avaient posé des petits jalons, des petits morceaux de bois qui cernaient les différentes parcelles qui allaient être défrichées, sachant que le reste gardait son aspect d'origine. Et puis, quand les machines sont arrivées, dans chacune de ces parcelles, en quelques jours, on mettait tout à plat. Donc ça ne se voit pas parce que la molinie, cette grande herbe, a repris le dessus. Mais il y a 2 ans, ici, c'était vraiment une zone complètement dévastée par les engins, par les chenilles. On voyait que de la terre à nu et des souches. Et ils étaient en train de mettre en tas les différentes grumes avec leurs branches. Et heureusement, l'azade s'est installée. Ce qui a bloqué le travail. Ce travail, il était impossible pour nous, militants non structurés, individuels, de s'y opposer. Les machines qui font ce travail sont énormes. C'est absolument pas un opérateur avec une tronçonneuse tout seul. C'est un opérateur qui conduit une grosse machine qu'on appelle une abatteuse. C'est une machine qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. Il est au-dessus, très haut dans sa cabine. Et puis devant la machine, il y a une espèce de pince qui sort, qui prend l'arbre à sa base. Sous cette pince, il y a une énorme scie à plat qui fait 1 mètre de diamètre, qui vient et qui coupe l'arbre. Et l'arbre est tenu dans la pince, il est levé, il est posé sur le côté. Et derrière, il y a une deuxième machine, un grand train avec une espèce de chenillette, qui reprend les arbres et qui les met en tas sur sa remorque et qui vient les déposer. Autrement dit, en 30 jours, ils avaient abattu 45 hectares de forêt. Et donc cette dévastation, elle est absolument terrible à voir quand on est seul face à ces machines. Et heureusement, l'effet de groupe a joué. Vous êtes venus, vous, et vous êtes opposés avec vos petites mains, en étant simplement immobiles devant les trains de machines. Et la gendarmerie n'a pas pu faire autre chose que constater qu'il y allait de votre vie et vous avez arrêté le chantier, heureusement. Merci encore.
Parce qu'ils avaient l'intention de continuer sur combien d'hectares, en fait?
70 ou 90, je ne me souviens plus, devaient être abattus au départ, de façon à créer les emprises à la fois des futurs bungalows, des futurs aménages, des futurs espaces communs et des routes. Et ce plan dessiné par les différents îlots à l'intérieur desquels il y a les bungalows et les routes, il est dans les documents d'études. Donc c'est pas une grande traînée, c'est une succession comme ça de petits îlots réduits. Et tout ce petit piquetage qui avait été fait en amont a été évidemment détruit très facilement par les opposants. Par contre, c'est revenir sur la dévastation forestière qui est plus délicat. Il faudra quelques années avant que les souches repartent. Voilà. On y va ?
Mais Yves, quand tu as dit qu'il y avait qu'un gars, ça, je fais une parenthèse, tu sais, avec sa voiture qui surveillait, ouais, protégeait les travaux. Non, il y avait une société.
D'abord,
ça a été des Corses, des Vigiles, qui ont été. Les premiers étaient des Corses. Je m'étais renseigné par les amis Corses. Ça allait à peu près. Il y avait des discussions qui s'engageaient. J'étais ferme. Mais les deuxièmes ont tapé, ont cogné. Les jeunes qui venaient s'opposer devant les arbres et devant le, s'attacher aux arbres comme ça, ils se sont fait cogner par derrière. Des filles se sont fait casser des côtes. Ils étaient violents, ces deuxièmes. Donc, ils étaient une dizaine qui se relayaient pour passer la nuit à quatre sur le terrain.
Et ces gens-là étaient vraiment à la limite de l'égalité. Hein. Franchement, leurs attitudes étaient tout sauf de la surveillance. Hein. C'était vraiment l'intervention brutale.
Bonjour.
Ça s'appelle comment ici?
Ici c'est Palais de Palace. Et c'est le palace aux 1000 palettes. Et c'est un lieu de réunion, rassemblement, discussion. Et de temps en temps, habitation pour certaines personnes qui prennent du temps là.
Et on dirait qu'il y a une population permanente, c'est les poules?
Oui, les poules sont les occupants principaux. Ouais. Du coup ça augmente nos effectifs. C'est pas mal. Et c'est les gens de la barricade sud qui s'en occupent et qui s'occupent aussi de la maison, qui l'habite aussi.
Et survivent avec les renards?
Eh ben, elles ont un grillage très intelligent qui les laisse passer elles et qui a priori peut-être ne laisse pas passer le renard.
Bien.
Elles ont un refuge en fait.
Voilà, elles ont un refuge dès qu'il y a le renard qui est dans le coin. Hop. Bon, a priori, s'il y a une fouine qui passe par là, elle devrait passer à la trappe. Mais en fait, là, le Palais de Palace, c'est une des maisons, cabanes, habitations de la barricade sud. Là, il y en a 4, 5, 6 à peu près. Et du coup, c'est une des indépendances.
Parce qu'en fait, il y a plusieurs accès à la zone, hein, c'est ça?
Il y a la barricade sud, la barricade nord. Et après des chemins plus petits,
et la marquise.
Et la marquise, mais ça, du coup, c'est hors zone et il n'y a pas de chemin, de route forestière pour faire passer des gros véhicules entre là-bas et ici. Et du coup, la zone d'entrée sud et la zone d'entrée nord ont leurs barricades et leurs occupants qui s'assurent qu'il n'y a pas de machines qui passent.
On y va ? Voilà, on va rentrer tout doucement. Là, on est sur un des points culminants. C'est vraiment un endroit extraordinaire pour observer la faune.
On est à 600 mètres. C'est presque le point le plus haut, 600 mètres, 610 mètres.
Donc, on est sur la tête de bassin. Les rivières coulent dans ce sens-là, contournent et vont par là. Et puis 30 mètres plus loin, les rivières coulent dans l'autre sens. Donc le Grand Julin, c'est un de ceux qui part par là. Et puis l'Aigle Noir, c'est un de ceux qui part par là. Donc la ligne de partage est là, sur la, à 30 ou 40 mètres derrière nous. Grand Julin d'un côté, Aigle Noir d'autre côté. Puis ça se rejoint et ça va alimenter l'herbasse. De l'autre côté, on a le, un autre point de fuite des eaux et ça va alimenter, comment ça s'appelle, à Dionnet, le Furan, qui va directement sur l'Isère alors que les autres vont sur le Rhône. Cette forêt-là et ce point d'observation-là, d'ici on voit les différents bassins versants et cette forêt constituait la tête de trois bassins versants. Et c'est pour cette raison-là qu'elle a une valeur patrimoniale au sens de la protection des cours d'eau d'Isère ou de la Drôme. Chose qui a été complètement négligée par l'aménageur et ceux qui lui ont donné leur feu vert, à savoir le maire de Roibon de l'époque. Il n'a pas compris.
Et le directeur de l'ONF, qui a accepté la distraction de la forêt communale en ayant reçu une lettre d'une personne haut placée de la région, un élu le plus haut placé à ce moment-là. Peut-être ça commence par un V, son nom, et qui a envoyé une lettre au directeur de l'ONF en disant qu'il espérait bien sûr que le directeur, que l'ONF ne verrait aucun souci à la distraction de la forêt communale, vu l'ampleur et les retours financiers qu'il pourrait y avoir après pour la région.
Si je comprends bien, l'ONF a aussi joué le jeu en accordant une partie de leur forêt pour la chasse. La partie qui a été enlevée par le projet Sainte-Partie. En contrepartie pour la perte de la chasse sur le...
Et on a acheté les chasseurs pour qu'ils se taisent, je dis bien acheté, puisque Pierre et Vacances a donné une bonne somme d'argent pour qu'ils leur faire construire une cabane, une très jolie cabane de chasse, qu'ils n'avaient pas dans un endroit qui est pas mal situé. Voilà. Ils sont obligés de l'ouvrir aux randonneurs, mais ils ont bien mis en cas d'intempérie seulement. Je considère que c'est à eux, mais c'est quand même avec... Mais c'est le lotisseur ici qui a donné cet argent.
D'accord.
Le point de captage des eaux qui se trouve à 20 km d'ici en contrebas. Hein, le point de captage est à grosso modo à la côte 200. Et ici, on a la côte 600 mètres d'altitude. Donc, il faut aller prendre de l'eau en bas, la monter ici. Une fois qu'elle est polluée par le Center Park, elle est ensuite expédiée via ce réseau, dans une autre centrale qui se trouve à nouveau à une quinzaine de kilomètres de distance à vol d'oiseau, et à nouveau en contrebas. Donc il faut la descendre, et elle ne descend pas par gravité, parce que comme il y a des collines, elle est descendue, remontée, repompée 7 ou 8 fois entre-temps. 6 fois, voilà.
6 pompes de relevage qui tomberont en panne régulièrement, parce que les gens les connaissent, savent comment ça fonctionne. Et il est prévu qu'à chaque fois qu'il y ait des crues, ou naturel ou autre chose, un trop-plein d'eau, ça se fait relâcher dans le milieu naturel. Ce milieu naturel, c'est les pentes avec beaucoup de combes, avec beaucoup de sources captées ou non, mais de très bonnes sources que les agriculteurs, éleveurs utilisent. Et ben, on va relâcher la merde du Center Park, les excréments humains, dans la nature à chaque fois qu'il y aura un problème. Voilà. C'est 27 kilomètres de tuyaux avec les pompes de relevage pour faire les derniers kilomètres, pour passer les petits cols et monter. Voilà.
Alors l'astuce au point de vue politique est la manière de fédérer les différentes communes autour d'un projet qui ne les intéressait pas directement puisque les retombées étaient locales au lieu d'être chez eux. Enfin, elles étaient sur Roibon au lieu d'être chez eux. L'astuce a été la création de ce fameux réseau puisqu'on a dit à toutes les communes qui étaient à proximité de l'amener ou de l'évacuation des eaux qui sont polluées ici qu'ils viennent se brancher sur le truc. Et donc c'est avec ce vecteur-là, cette idée de créer une infrastructure desservant plus que le Center Park, qu'a fonctionné le système de cohésion entre élus autour du projet. Évidemment, à Roibon, il y avait déjà un système d'adduction d'eau et de traitement des eaux qui était largement suffisante pour la commune en question, qui doit être de mémoire de 1800 personnes. Mais comme on crée une petite ville de 5000 personnes, cette infrastructure est insuffisante. Et donc, on en crée une beaucoup plus grosse pour gérer donc les 7000 personnes, plus ceux qui sont en amont d'un côté ou en aval de l'autre côté. Voilà l'astuce politique qui a été mise en place. Tout ça s'est fait sur l'argent public. En principe, selon les teneurs du dossier, ça n'a rien à voir avec le Center Park. Et puis quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que c'est dimensionné pour le Center Park et de façon connexe seulement pour les communes en question.
Les communes qui commencent à se relâcher, toutes celles qui sont en aval après, puisque les adductions d'eau ont été faites à partir du plus gros village après Bessin, je ne sais plus. Ça y est, il y a déjà 10 km qui ont été faits jusqu'à la Donc les communes vont se désengager maintenant du soutien, quoi. Ben, elles ont ce qu'elles voulaient, en tout cas, c'était leur conduite d'assainissement jusqu'à la grande station de retraitement.
Donc vous voyez, les tuyaux qui sont là sont à l'abandon depuis 2 ans, heureusement, grâce à vous qui tenez le terrain. Et il y a la même chose, je ne sais où, enfin, je ne sais plus où c'est, ça part là-bas. Et il y en a comme ça, en principe, sur les 27 kilomètres. Heureusement, ça a été abandonné. On y va ?
On y va.
Sûr qu'il y aura mobilisation. Si par malheur les travaux devaient reprendre avec la volonté de passer en force, ils créent un point d'abcès, de la même manière que Sivens, qui était 3 fois rien, est devenu une affaire nationale. Et donc il y aura la même mobilisation ici. Et vous ne faites aucun souci, ils peuvent emprisonner les militants, ça n'empêchera absolument pas que les gens viennent de tous les pays d'Europe pour se battre contre ce projet. De la même manière que nous étions, nous, désarmés il y a 2 ans en tant que sociétaire de PCSCP, c'est l'association qui toujours a employé les moyens légaux de combattre ce projet sans employer les moyens de terrain, sans être ici avec une masse à taper sur des machines.
Et ça veut dire pour les Chambarans sans Center Park.
Et donc de la même manière qu'il y a 2 ans, en octobre, nous avons vu la forêt tomber sous le coup de ces énormes machines pilotées par quelques gars qui étaient assez agressifs vis-à-vis de nous autres qui les regardions et qui étaient également encadrés par quelques nervis dans des petites voitures qui nous surveillaient. Nous étions pendant 1 mois complètement désarmés, on ne savait absolument pas comment faire. Et le recours à la violence semblait légitime, mais c'était quand même pas une évidence intellectuel que d'aller détruire ces machines. Et du jour au lendemain, la mobilisation s'est faite. Le 30 novembre, il y avait plusieurs dizaines, sinon centaines de personnes qui étaient à la ZAD, enfin à la Marquise, ça s'appelait encore comme ça. Et en quelques semaines, les jeunes gens, jeunes ou moins jeunes, ont tenu le terrain et ont bloqué les travaux. Ils l'ont fait de manière remarquable, sans la moindre violence. Toutes les choses qu'on a pu leur reprocher, ces provocations d'un Algeco rempli de ceci, de cela, de quelques clôtures qui ont été bousculées ou autres, ces provocations sont absolument pas dans l'esprit. Et si elles sont le fait de l'un des zadistes, ben c'est un cas marginal. L'esprit qui a été celui de la ZAD, qui est un respect total des lieux et des personnes, il a été maintenu pendant 2 ans. Donc quelque chose d'inattendu pour nous, militants de PSCCP, s'est produit. De la même manière, le jour où il y a une avancée dans le sens où l'opérateur croit pouvoir continuer ses travaux, il se produira quelque chose que nous ne savons pas encore anticiper, pas encore décrire. Mais ça se produira. Et cet opérateur n'a aucune chance de tenir son terrain par la force. Donc il abandonne son projet, et puis c'est tout. Voilà.
On partage cet enthousiasme, évidemment, puisqu'on veut que ça aille dans ce sens-là. Encore faut-il qu'on pousse les choses à aller dans ce sens-là. Je trouve que tu as une vision hyper déterministe des choses. C'est comme si l'impossibilité de faire ces projets-là allait dans le sens de l'histoire. On remarque, hélas, que actuellement, le sens de l'histoire nous amène à en avoir plein les territoires. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que certes, on souhaite que le dénouement aille dans ce sens-là, mais ça n'ira pas de soi. C'est-à-dire que l'impossibilité technique de tenir Center Park pour pierre et vacances, c'est un critère d'appréciation de. Mais qu'est-ce à dire des endroits où ils pourraient le faire? Le fait que, par exemple, il n'aurait pas besoin d'emploi ici, c'est-à-dire des endroits où on s'apercevrait qu'il y a 20% de chômage, est-ce qu'on serait obligé de reconnaître que, bon, ben là, dans ce cas-là, effectivement, il y a une légitimité, pas plus, en fait, selon nous.
Là où j'entends très bien ta remarque, c'est que tu as simplement changé d'échelle. Donc, en changeant d'échelle, tes remarques sont absolument justifiées. C'est vrai que d'un point de vue global, d'un point de vue stratégique, tes réactions sont justes. Mais si on revient à l'échelle locale de ce Center Park-là, ce projet inutile qui est imposé à Roibon, il y a énormément de circonstances qui vont en défaveur de l'aménagement du lieu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors il est vrai que dans des coins un peu plus favorables à ces grands projets-là, ça pourrait passer. Mais je ne me suis prononcé que sur ce que je vois ici, sur ce qui s'est passé il y a 2 ans. Nous étions dans une situation de désespoir et du jour au lendemain, c'est lui qui s'est trouvé dans une situation de désespoir. Non pas vraiment en tant que personne, mais les gars qui ont travaillé pour lui. Le bureau d'études qui avait fait une enquête salopée, le forestier qui avait pris un lot de bois qui comptait exporter, qui est toujours là depuis 2 ans, et puis le petit gars qui faisait les contrôles de sécurité, là, qui allait et venu avec son petit 4x4 et qui surveillait les gens, et puis on ne le voit plus, ce gars-là. Bon, tous ces gens-là qui ont travaillé pour lui se sont trouvés gros gens comme devant avec un projet qui n'aboutit pas. Et si la question m'est posée de savoir, dans un mois ou deux, une autorisation de travaux est accordée, et comment ils vont faire? Moi, je suis certain que les difficultés sont telles qu'il ne peut pas amener son projet selon les critères qui avaient été les siens il y a une dizaine d'années quand il les a posés. C'est-à-dire un certain montant d'investissement, une certaine facilité pour, etc., etc. Il va falloir qu'il remette énormément d'argent.
Sur plusieurs positions, sur plusieurs autres lieux, on a aussi ce questionnement. On trouve ça hyper dur de la part des forces de l'ordre de tenir certains espaces. Et on se demande, on se pose la même question pour Notre-Dame. Comment est-ce qu'ils font pour sécuriser un chantier dans un espace qui va être constamment harcelé par des centaines de personnes qui sont entraînées ces derniers mois? On se pose la même question ici en se demandant comment est-ce qu'ils peuvent faire. Et c'est vrai que moi, la tactique qui m'inquiète plus, c'est les tactiques d'affaiblissement. Où certains lieux d'ici qui nous servent bien d'infrastructures sont détruits ou repris. Donc ça nous affaiblirait beaucoup, etc. Ce qu'ils font depuis 2 ans en nous laissant avec peu d'informations sur la partie juridique et en nous laissant avec aucune réaction de la part de la police, réaction forte, ça nous laisse sans résistance en face, ça nous laisse sans raison d'être là, quoi. Du coup, ça réduit le nombre de personnes, ça affaiblit le mouvement. Il y a pas de nécessité, il y a pas d'urgence. Et le fait de réduire cette nécessité, cette urgence, ça affaiblit le mouvement. Et voilà, du coup, c'est plutôt des tactiques comme ça qui sont de l'ordre de réflexion de personnes qui sont dans des logiques de tacticiens, en fait. C'est assez intelligent. Je pense que c'est assez intelligent.
Je ne sais pas à quel point je crains ça précisément, la technique d'affaiblissement sur le long terme. J'ai l'impression que des gens reviendront quand il y aura plus d'urgence. Voilà. C'est un espoir, quoi, presque. Mais par contre, je pense qu'on est quand même plusieurs à craindre une reprise des travaux, un peu comme ils peuvent faire à Bure, justement, où ils avancent. Et même s'ils ne peuvent pas tenir toute la zone, ils avancent quand même, en fait. Ils peuvent quand même sécuriser une ou deux machines qui travaillent et avoir autour le nombre de CRS qu'il faut pour protéger l'avancée de quelques machines comme ça, quoi. Du coup, quand on y réfléchit, on se demandait s'ils essaieraient pas plutôt de faire ça s'il devait y avoir une reprise de travaux. C'est-à-dire démarrer quelque part et puis avancer, quoi. Et ça, on sait pas. Enfin, il y a quand même, c'est juste pour dire qu'on n'est pas aussi sûr que ce serait impossible pour eux de redémarrer parce qu'on est là, quoi. Moi je suis pas aussi sereine là-dessus.
C'est une des stratégies qui est évoquée pour Notre-Dame-des-Landes, ouais. De démarrer avec un coin qui est bien sécurisé. C'est un peu le même modèle que dans le Val de Souze d'ailleurs, qu'il y a une sorte de forteresse qu'ils arrivent à tenir, mais et qui commence les travaux et puis après petit grignotage en quelque sorte. Ouais.
Mais du coup, comme ces questions-là se posent, on prend du temps, on se rassemble pour pouvoir discuter et évaluer un peu quelles tactiques eux peuvent mettre en place et quelles réactions nous on peut mettre en place aussi. Du coup, je trouve ça intéressant de le dire ici que ça se prépare aussi de notre côté.
Lors d'une réunion à la préfecture, il y a un an et demi, 2 ans, ouais, un an et demi, donc il y avait tous les organismes d'État pris en compte, c'est-à-dire police, gendarmerie, Croix-Rouge, pompiers, tout le monde avait été réuni. Donc la tactique envisagée, c'était bien sûr les faire perdre par attrition,
c'est-à-dire par affaiblissement. Et la deuxième, c'est qu'ils attendent que... Ils ont été bloqués par la voie légale pour le moment, qui embête le propriétaire. Il ne sait pas ce qu'il aura le droit de faire ou pas. La deuxième chose, ça serait qu'il fasse enclore tout son terrain, puisque c'est une propriété privée et c'est prévu qu'elle soit enclose. Donc il a fait un appel d'offres dans l'année, là, 2016, au printemps, hein. On sait qu'il y a une entreprise qui l'a emporté pour faire le travail d'enclosure de tout ce terrain. Donc ils ont plusieurs moyens de voir. Alors après, effectivement, le grignotage sera envisagé. On sécurise un endroit et on avance. Mais ça fait perdre beaucoup de temps. Alors que lui, maintenant, il faut qu'il y aille très vite. Son argent est en jeu. Il a annoncé de l'argent. Les Chinois commencent à lui demander les comptes. Hein. HNA, c'est la grande société chinoise qui a mis... Et puis lui... Bon, il dit qu'il reprend un peu, qu'il regagne un peu sur ses autres center parks. Enfin, il est obligé de combler par l'argent de Pierre et Vacances les autres institutions qu'il a. Et ça lui coûte de l'argent quand même pour le moment.
Ici, ce sont des enjeux qui n'ont rien à voir avec Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'est de l'aménagement du territoire au sens national. Ici, c'est simplement le caprice d'un type qui a décidé de se mettre là parce que c'était moins cher et qu'il y a des incitations fiscales absolument aberrantes. Mais il n'y a aucune raison ici que l'État se mobilise comme il l'a fait à Notre-Dame-des-Landes. De la même manière qu'à Sivens, les mobilisations nationales étaient complètement ridicules. Les enjeux étaient nuls. Aucune création de quoi que ce soit, c'est simplement profiter à une quinzaine d'agriculteurs pour qu'ils continuent à faire la maïsiculture. Donc que ça échoue à Sivens ou que ça échoue à Roibon, c'est que les logiques sont exactement les mêmes. Notre-Dame-des-Landes, c'est un dossier beaucoup plus complexe. C'est de la même ampleur que ce qui se passe à Bure. On ne peut pas lâcher sur Bure quand on est à la tête de l'État. On peut difficilement lâcher sur Notre-Dame-des-Landes quand on s'appelle héros. Mais on voit pas pourquoi un Valls ou son successeur s'inquiéterait de ce qui se passe à Roibon au profit d'un aménageur qui est en plus maintenant sous capitaux chinois. Et ça a pas de sens au niveau des politiques publiques. C'est complètement ridicule. De la même manière que Sivens, ça n'avait aucun sens. Envoyer des forces de gendarmerie et tuer un militant à Sivens, c'était une erreur politique monstrueuse, quoi. Et il le paye le prix du lourd. C'est un scandale ce qui s'est passé à Sivens. Si ça devait recommencer avec les petits nervis comme il y avait 2 ans, là, tous les types qui étaient cagoulés en noir et qui nous empêchaient, ou les gars du pays qui s'amusent à rouler sur le pied des filles ici, si ça devait recommencer, on rentrerait dans la même logique qu'à Sivens, à savoir le scandale public. C'est un vrai scandale, c'est des dénis de démocratie ce qui se sont fait ici ou à Sivens.
Mais c'est pas un enjeu donc national, mais bien local et...
Absolument pas. C'est pas un enjeu local. Les gens de Roibon ne sont pas plus demandeurs que les gens de Saint-Joire ou les gens de Saint-Antoine ou quoi que ce soit qu'il y ait quelque chose ici. Les gens vivent très bien avec leurs moyens, mais on leur a fait miroiter une espèce de pactole qui devait tomber comme ça, comme s'ils étaient déshérités de la terre et qu'on allait investir chez eux 350 millions d'argent privé plus 120 millions d'argent public. C'est de la foutaise tout ça. L'enjeu, il n'est pas pour les gens du pays. L'enjeu, il est chez cet industriel qui, lui, va mobiliser les 120 millions dont il a besoin pour conforter ses propres 350 millions. Et quand je parle des 350 millions d'investissements privés par l'opérateur, c'est en fait la Caisse des dépôts qui est derrière. Donc tout ça, c'est des montages financiers d'argent public, soit qu'ils viennent de la Caisse des dépôts, soit qu'ils viennent des collectivités locales, à savoir le Conseil régional de Rhône-Alpes-Auvergne et puis le Conseil départemental de l'Isère. Et il y a quelqu'un qui tire les ficelles pour mobiliser de l'argent public et faire ses affaires. Mais qu'il soit fait cette affaire-là à Roibon, à Poligny, à Rousset ou XY, ils s'en contrefout. L'essentiel, c'est qu'il y ait de l'argent public qui passe par ses propres caisses. Son problème, c'est de drainer de l'argent public. Et c'est là où il y a un scandale. Et c'est là où les gens se rendent bien compte que tout ça, c'est un vaste montage financier. Encore une fois, c'est la Caisse des dépôts, des consignations pour l'achat des résidences, là, des espèces de bungalows en bois. Et puis, c'est les collectivités locales pour faire les routes, les parkings et tout. C'est ces montages-là qu'il faut dénoncer. on supprime les têtes de bassin pour plusieurs rivières, ou qu'on vienne supprimer des espèces naturelles, ou qu'on fasse des aménagements pour l'adduction et l'acheminement des eaux usées, des aménagements qui sont faits en dépit des règles. C'est ça, il y a quatre ou cinq scandales. Le scandale financier, le scandale en termes d'aménagement, le scandale en termes de destruction des zones humides, et le scandale en termes de destruction de la faune et de la flore. Mais là-dedans, le bien-être des communautés locales, si on devait s'intéresser aux gens de Roibon, il n'existe absolument pas, il n'a jamais été pris en compte. On ne fait pas ça pour aider Roibon, c'est pas vrai.
Oui, le problème, c'est qu'il semblerait qu'ils n'ont pas très bien compris, parce qu'on pense que par Roibon, on voit ça, beaucoup de bâtiments, oui, au Saint-Parc, il semble que le mairie aura, etc. Et que, bon, ici, les personnes qui sont sur la zone ne sont pas franchement extrêmement soutenues. Bien sûr, il y a des gens qui soutiennent, mais localement, c'est pas si simple que ça.
Mais localement, les gens de la commune ont pu croire en leurs maires successifs, le premier M. Bachasson et le second M. Perrault, et puis afficher sur leurs bâtiments des manifestations en faveur du projet. Mais vous faites 2 kilomètres à l'écart de Roibon, c'est-à-dire des gens qui devraient pouvoir en bénéficier s'il y avait des retombées économiques, et vous trouverez dans aucun des villages ou des hameaux qui sont à plus de 500 mètres de l'hypercentre de Roibon, vous ne trouverez aucune manifestation d'intérêt en faveur. Vous pouvez aller à Montrigaud, à Dionnet, à Saint-Antoine ou ailleurs. Nulle part, les gens disent « on est pour le Center Park », c'est pas vrai. Parce que nulle part ailleurs, il y a eu la moindre propagande.
Il y a une banderole à Chevrière aussi, le maire de Chevrière.
Ah, il y en a une à Chevrière. Oui, ben, écoutez.
Ils attendent que le maire de Saint-Marcellin leur prête la nacelle pour pouvoir l'enlever, parce qu'il a fait enlever. Et c'est avec les sous des citoyens de Chatte que plusieurs banderoles ont été installées. J'ai embêté un peu le maire là-dessus, plus qu'embêté, en lui demandant un retour sur investissement, et je veux qu'il me ramène ma monnaie. Parce qu'il a pris l'argent public pour installer des banderoles, qu'il a même passé ça encore en conseil municipal. Donc tous ces élus se sont sentis emmenés dans une affaire qu'ils pensaient exceptionnelle, incroyable pour la population. Et puis ils sont bien embêtés quand même un peu avec ça maintenant, parce qu'ils se rendent compte que la légalité n'est pas assurée du tout sur ce type
oui,
de...
Il y a eu un effet d'annonce, effectivement, il y a 2 ans exactement, avec un leader local qui a cru pouvoir mobiliser ses collègues. Chacun de ses collègues a reçu sa banderole, l'a affichée sur sa mairie. Pour certains villages, ça a duré 1 mois, c'était le cas à Dionnet. Pour d'autres villages, ça a duré 1 mois et 1 jour, c'était Saint-Antoine. Puis il y a certains encore villages où ça a duré 2 mois ou 3 mois. Mais même à Chatte, c'est-à-dire au cœur de l'endroit où c'était mobilisation, ça n'a pas duré plus de 3 mois. Puis de toute façon...
Hein, si, il a fallu, ça a duré 6 mois, il a fallu faire une manif dessous, attendre les élections, et puis le menacer avec ces élections et tout ça, pour qu'il a profité de travaux pour la retirer et surtout ne pas la remettre, alors qu'il avait dit « je la laisserai toujours ». Quelqu'un de très fier, très un peu bloqué. Bon, puis il y avait pas. Ces maires étaient soutenus aussi par le conseil départemental et régional. Il y avait un préfet même qui nous a fait craindre en 2014, l'hiver, quelque chose qui se passe plus durement comme à Sivens, parce que les routes étaient bloquées. Enfin, la route qui menait ici était bloquée tout l'hiver. Il y avait des contrôles de gendarmerie partout. Moi, je me suis fait contrôler et fouiller la voiture 4 fois et contrôler 12-13 fois, je crois, en venant ici donner un bonjour, quoi. Voilà, il y avait de la gendarmerie partout, à tel point qu'ils ont demandé des renforts jusque dans le bas de la Drôme. On se demandait comment ça allait tourner. Maintenant, ça s'est calmé.
C'est vraiment devenu un enjeu, quoi. Tu dis que c'est pas un enjeu pour les gens d'ici, mais avec l'effet d'annonce, c'était devenu un enjeu non seulement pour Roibon, mais pour le département et la région. Enfin, au niveau régional, il y a eu des votes de subventions quand même assez importants, et ça a été une manœuvre politique qui est contestée par les autres membres du conseil, quoi. Ça avait quand même grossi, c'est quand même devenu une sacrée affaire. Sous-jacent, je trouve qu'il y a quand même une pression politique qui est pas équivalente à celle qu'à Notre-Dame, c'est sûr, mais il y a quand même une pression politique. Parce que Brémond, depuis les vacances, il est aussi bien placé, il a des billes politiques, il a des alliés politiques, et du coup...
Il fait ce qu'on appelle du lobbying, mais ça ne signifie absolument pas qu'on puisse reprendre le terme d'enjeu local ou régional. Parce que s'il y a des enjeux, ils touchent que quelques personnes, des décideurs, par exemple des élus locaux, mais ils ne touchent absolument pas la population. Le taux de chômage local est tout à fait moyen.
À Roibon, il est au-dessus de la moyenne.
On n'est pas dans une zone sinistrée à tout point de vue. Mais on a fait croire à certaines personnes qui ont volontiers adhéré à cette idée-là qu'ils étaient sinistrés et qu'on allait les aider. Et du coup, pendant quelques mois, il y a eu un espèce de clivage entre ceux qui étaient pour de façon inconditionnelle et puis ceux qui se disaient « qu'est-ce que c'est ce machin ?» Et même si vous n'êtes pas suivi par la totalité de la population, ça m'étonnerait que l'ancien maire, avec ses promesses mirobolantes, ou l'ancien président du Conseil général, il s'appelait Conseil général à l'époque, avec ses autres promesses, soit suivi comme il l'était à l'époque. Le vent de l'histoire a tourné. Il y a eu Sivens avec pas l'assassinat, mais disons la mort du jeune militant. Et ici, il y a eu des débuts de violence. Et heureusement, elles ont été arrêtées de façon extrêmement nette fin décembre d'il y a 2 ans et début janvier. Parce que si on continuait à alimenter la machine comme l'avait fait M. Barbier, qui était à cette époque-là candidat à la présidence du conseil départemental, donc si on avait continué à alimenter la machine haineuse, on aurait ici les mêmes guerres que ce qu'il y avait eu à Sivens. Et heureusement, ça s'est calmé. Il faut quand même garder raison.
Mais donc je répète un peu la question d'avant, mais juste si jamais voilà les gendarmes ils arrivent, les bûcherons pour couper, etc. Est-ce que vous pensez que il y a quand même une forte réaction des gens qui viennent défendre la zone quoi?
Il y aura exactement la même mobilisation que ce qu'il y a eu il y a 2 ans. Ça se passera exactement de la même manière. Et le contexte politique est encore plus vers la mobilisation des opposants à ce type de projet, inutile et imposé, qu'il ne l'était il y a 2 ans. Parce que le contexte politique s'est encore durci en 2 années. Je ne vois absolument pas pourquoi demain il n'y aurait pas 300 ou 400 militants qui viennent s'installer durablement ici. Alors bien évidemment, ils peuvent faire ce qu'ils ont commencé à faire pendant 6 mois il y a 2 ans, à savoir avoir un hélicoptère qui vient chaque jour avec sa caméra vérifier qui est là et donner des coups de sonde dans chacune des cabanes pour voir s'il y a 1 ou 2 gars dedans. Et alors, après avoir fait la statistique de savoir qu'ils sont 18 aujourd'hui, qu'ils étaient 16 hier et qu'ils seront 22 demain, ça change quoi? Ils savent l'état des forces et c'est tout. Mais ce n'est pas une raison. Ils peuvent prendre d'assaut la citadelle de Pierre et Vacances, et demain on recommence à zéro, parce que les 18 gars qu'ils auront mis en cabane, ben, il y en aura 22 qui arriveront, 200. C'est un combat perdu d'avance. Et encore une fois, l'enjeu en termes d'aménagement public est nul.
Je souhaite bien du courage. Le conseil régional a fait voter des crédits de 4,7 millions, le conseil régional. Le président du conseil départemental maintient toujours ses 8 millions de dons en direct, hein. Et pas en travaux. Les travaux se font après par le conseil départemental et par les communautés locales. Ça reste quand même un enjeu pour eux, donc ils y tiennent.
Mais quand on réagit, par exemple, une population comme à Grenoble, on est en Isère, là, je pense. Donc Grenoble, je veux dire, et c'est leur argent, finalement, aussi, qui est promis, là, à Saint-Eparcs. Ils réagissent pas.
Grenoble, là, mais il y a des gens de Grenoble, mais on sait qu'ils ont leur propre combat, mais tout le monde est prêt à se réunir sur un projet phare, enfin, une action phare au moment où il le faudra, bien sûr. Il y a des gens qui viendront. Et puis, on n'est pas si loin que ça de Lyon.
Il y a tous les contribuables de l'Isère qui peuvent se poser la question « Où sont les pertes en ligne sur les millions et les millions qui circulent dans des tuyaux ?» De la même manière que sur les tuyaux de réseaux d'eau, certains réseaux, il y a 10%, d'autres réseaux, il y a 20% de fuite. Il y a des joints qui sont mal faits, l'eau circule en dehors des tuyaux. Ben, la même chose avec l'argent public. Il y a des joints qui sont mal faits, il y a des endroits où il y a des pertes. C'est typiquement l'endroit où il y a de l'argent qui va aller vers des opérations qui n'ont aucune valeur en termes de biens communs, les parkings de Center Park, alors que cet argent devrait aller vers des biens communs, que ce soit par exemple les crèches qui ont cessé d'être subventionnées, les théâtres, les MJC, les machins, les trucs, l'éducation populaire, les soins à l'enfance, les soins aux vieillards, le transport des enfants, etc., etc. Il y a des pertes en ligne. Bon, maintenant, ceux qui s'intéressent à cette question-là votent en conséquence. Puis la majeure partie des personnes n'ont pas conscience de tout ça parce que l'information est à la fois ardue et pas forcément très claire. Et puis on oublie et puis il y a quelques millions qui foutent le camp vers les parkings de Center Park. C'est tout. Le jour ici, on veut protéger cette zone, il y aura une mobilisation. Et ce n'est pas une mobilisation de 10 jeunes, c'est une mobilisation de centaines de personnes. Et elle sera récurrente. On en aura mis 20 en cabane, ben, il y en aura un nouveau 20 le jour d'après à mettre à cabane. Parce qu'on ne peut pas tenir cette zone. C'est impossible. Je veux dire, quand on dit tenir, la tenir au sens d'un état policier. Ce qu'ils ont tenté de faire il y a 2 ans pendant 6 mois. Nous pouvons, nous, militants des causes du bien commun, qu'elle soit l'eau, qu'elle soit la biodiversité, qu'elle soit l'argent public, qu'elle soit l'environnement non pollué par les eaux du Center Park après leur exploitation, donc ce problème d'assainissement. Nous qui défendons le bien public, on peut tenir nos convictions, être présents et alimenter les ZAD ou autres en nourriture et en soutien. Mais l'inverse, un État policier ou des milices privées ne peuvent pas tenir cette zone parce qu'elle est trop vaste et qu'encore une fois, les enjeux ne sont pas d'ordre public.
L'optimisme d'Yves Checuti semble effectivement justifié, car le 16 décembre, 2 semaines après cette balade à Roibon, la Cour administrative d'appel de Lyon a confirmé l'illégalité de 2 des 3 arrêtés préfectoraux qui permettaient la construction du Centerparc à Roibon. La Cour a engagé une démarche inhabituelle destinée à conforter ses positions. Après une première audience le 3 novembre devant 3 juges, elle a réexaminé l'affaire en plénière lundi 12 décembre en présence cette fois-ci de 7 magistrats. Elle a ainsi entendu à nouveau le rapporteur public, Marc Clément, un expert en droit communautaire, détailler ses conclusions en s'appuyant sur la loi sur l'eau ainsi que sur les directives européennes concernées. La Cour a suivi son avis dans 2 requêtes sur 3. Elle a d'abord donné raison à l'association pour les champs barons sans Centerparcs par rapport aux incidences des eaux usées d'un centre aquatique et d'un village vacances capable d'accueillir 5 600 personnes, alors que des étangs, des landes, des vallons tourbeux, humides et des ruisseaux à écrévisses classés Nature 2000 se situent à 1 kilomètre de là. Deuxième désaveu, le projet de Roibon voudrait s'installer sur un plateau où sourdent plusieurs sources qui alimentent les rivières de la Drôme. Il y a, comme on a déjà entendu, 76 hectares de zones humides qui seraient affectées. Par contre, le rapporteur public n'a pas été suivi sur le 3e arrêté ayant trait à l'autorisation de détruire des espèces protégées. Cette dérogation était livrée seulement lorsqu'un intérêt public impératif majeur est en jeu, a rappelé Marc Clément. Il a estimé que tel n'est pas le cas d'un Centerparcs, nonobstant l'activité économique qu'il peut apporter dans la région. Or, la Cour a précisément avancé l'argument inverse au nom des 600 emplois pérennes et du millier d'autres qui seraient générés par le chantier. En tout cas, le promoteur, le groupe Pierre et Vacances, a tout de suite réaffirmé sa volonté de poursuivre le projet soutenu par les élus locaux et régionaux, les acteurs socio-économiques et la population, et a fait connaître sa décision de se pourvoir auprès du Conseil d'État. Cette persévérance juridique n'a surpris personne, car pour Pierre et Vacances, qui compte déjà 21 Centerparcs en Europe et en a d'autres en préparation en France, un échec à Roibon constituerait un précédent fâcheux. Donc c'est bien une affaire à suivre. Dans la deuxième partie de cette émission, nous évoquerons les luttes contre 2 autres Centerparcs, donc un projet à Poligny dans le Jura et l'autre à Rousset en Bourgogne. C'était Centerparcs, ni ici, ni ailleurs, une émission de Radio Zinzine. C'était la première partie. Une balade à Roibon.